Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des émissions en langue française de Radio Prague. Comme chaque semaine, vous le savez, deux rubriques figurent au programme de la prochaine demi-heure. Il sera donc question de culture et de littérature et on commence bien entendu avec la culture et du théâtre et pas n'importe lequel théâtre, c'est du très très classique et Shakespeare qui, paraît-il, savait déjà comment apprivoiser les femmes. La Mégère apprivoisée est en effet une des premières comédies sorties de la plume de Shakespeare à la fin du XVIe siècle. Elle est également proposée dans le cadre du désormais traditionnel festival de théâtre en plein air, les festivités d'été de Shakespeare, où vers le 25 juin, le festival offre 2 mois de spectacle et ce, à Prague, à Brno, à Ostrava et même en Slovaquie. La rubrique a été préparée et vous est présentée par Lucie Drexelova.
Culture sans frontières.
Shakespeare en République tchèque, ce n'est pas seulement l'œuvre de l'un des plus grands dramaturges de l'histoire. République tchèque en a en effet la chance de disposer d'un traducteur royal de l'auteur anglais, Martin Hilsky. Son statut de traducteur attitré de William Shakespeare, Martin Hilsky, professeur de littérature anglaise, l'a mérité littérairement à la sueur de son front en traduisant ses 25 dernières années tous ses ouvrages. Fort logiquement, c'est donc de ces traductions régulièrement vantées pour leur grande qualité dont se servent les metteurs en scène des festivités d'été. Néanmoins, en assistant à une pièce truffée de métaphores linguistiques modernes, de jeux de mots et d'argot de la jeune génération, plus d'un spectateur pourrait être tenté de consulter l'œuvre originale afin de confronter la modernité de la mise en scène et des dialogues avec le langage forcément plus obsolète de Shakespeare. Et là, surprise, les deux versions sont en fait tout à fait identiques, grâce à Martin Hilsky. Crucial selon le traducteur, la mise à jour du langage permet de préserver sa captivité tout en tenant compte de la place cruciale que la langue occupe dans les pièces de Shakespeare.
Divadelní text předpokládá, že budete rozpoznávat divadelní situace.
Un texte de théâtre suppose que vous imaginiez sa mise en scène en le traduisant. Il était donc important pour moi de savoir qu'il y avait un minimum de coulisses à l'époque de la Renaissance. Les acteurs avaient des costumes extraordinaires, mais la pièce restait surtout un art de parler. Les conversations et les monologues intimes devaient construire tout l'univers de la pièce de Shakespeare. Les metteurs en scène les plus extravagants et les plus modernes ont compris cela et se bornent surtout à l'expression verbale. Actuellement, le style de la Renaissance est associé à une approche moderne des pièces de Shakespeare.
La comédie La Mégère apprivoisée est proposée depuis 3 saisons dans le cadre des festivités d'été. Commençons d'abord par un extrait musical. Outre un arrangement musical moderne et original, on retrouve dans cette adaptation certaines des caractéristiques incontournables des comédies de Shakespeare. Une humeur brusque, des échanges d'identité, typiquement le servant qui remplace son maître, la ruse qui permet d'arriver à ses fins même au prix d'une petite tricherie, et la belle fille entourée de plusieurs amants, ou encore l'admiration explicite de l'abondance matérielle. Mais la Mégère apprivoisée, comme son titre l'indique, c'est également une histoire sur la façon d'apprivoiser une femme. Un sujet politiquement assez incorrect, surtout si on se limite à une lecture au premier plan, stratégie devant laquelle met en garde Roman Zach alias Petruccio, principal personnage masculin de la pièce.
À mon sens, dans cette pièce, il s'agit surtout de trouver une vie de couple heureuse. J'avoue avoir déjà vu des adaptations dans lesquelles on se bornait à apprivoiser la femme. Elles se sont limitées au titre de la pièce sans aller plus loin. Ce n'est pas l'interprétation que nous en faisons ici à Prague. Je considère que le couple central, Catherine et Petruccio, vit une rencontre extraordinaire, très rare dans la vie réelle. Si les gens n'ont souvent pas le courage de suivre leur amour, ces deux personnages le font. Mais ils ont un caractère sauvage, ils sont habitués à lutter pour obtenir des choses dans la vie. Ainsi, leur coexistence ne va pas de soi et ils commencent à lutter l'un contre l'autre. Moi, en tant que Petruccio, je conçois qu'il s'agissait d'un coup de foudre dès la première rencontre. Je n'apprivoise pas une femme désobéissante. Après, c'est au spectateur qu'il appartient d'évaluer si notre interprétation leur paraît réussie.
La question relative à la recette pour apprivoiser une femme s'imposait compte tenu effectivement du titre de la pièce. Pour Roman Zach, le message de la pièce ne peut s'appliquer à la vie de tous les jours en partant du principe qu'il ne s'agit pas tant de briser un caractère que d'avoir le courage d'entreprendre une action. Catherine n'est pas donc une femme prête à se soumettre et à être soumise.
Catherine n'est pas méchante, elle est surtout malheureuse. Elle n'est pas contente d'elle, elle n'est pas bien équilibrée. Pour cela, elle tape autour d'elle et cherche un partenaire fort qui pourrait la supporter. Petruccio en est le premier capable. La recette applicable à cette situation comme à la vie réelle est surtout de ne pas avoir peur des complications, d'être réactif et prêt quand une occasion se présente. Ce qui est crucial, primordial, c'est l'envie d'être avec l'autre. Sans cela, toutes ces péripéties n'auraient pas de sens. En conséquence de quoi, l'apprivoisement représente un processus qui leur plaît.
Comme le titre de la pièce le suggère également, la mère apprivoisée peut aller à l'encontre de la volonté d'émancipation des femmes en renvoyant au stéréotype de la soumission de second sexe. Roman Zach reconnaît qu'une partie du public réagit souvent avec répulsion au ton sérieux avec lequel Catherine appelle les femmes à obéir à leur mari.
À première vue, il s'agit bien d'une pièce politiquement incorrecte au XXIe siècle. Certains spectateurs sont déçus de voir que Catherine prononce son discours final sur un ton sérieux. Ils nous demandent pourquoi nous n'avons pas ironisé ses propos. Je leur réponds que c'est parce que cette manière de jouer nous plaît. Il s'agit d'un divertissement pour l'été. Et c'est comme ça que Shakespeare l'a écrit. Mesdames, obéissez à vos maris. Že nebuďte hodný na svý muže a milujte je a tak dále.
On entend parfois des remarques selon lesquelles les festivités d'été de Shakespeare se sont adaptées à la culture de masse et à un public qui ne se rend que rarement au théâtre. Nous avons demandé à Roman Zach de donner son avis sur le public de la Mégère apprivoisée.
Il y a de tout dans le public. Il y a bien sûr parfois au premier rang les hommes d'affaires qui secouent les coudes de leurs compagnes blondes en leur disant « Tiens, tu vois, Shakespeare savait déjà ce qu'il faut faire ». J'imagine qu'ils vivent de ce spectacle encore pendant des semaines, en rappelant leur supériorité à chaque occasion. Mais je ne pense pas que ce profil d'hommes soit majoritaire dans le public. Une majorité assiste à une pièce de théâtre en plein air une fois par an. Ils consacrent leur journée à la visite du zoo ou au shopping, et viennent voir notre pièce le soir. Ce sont des gens pour qui c'est une occasion festive et ils veulent surtout s'amuser. C'est d'abord pour eux que la mise en scène et les blagues ont été pensées. Ceci dit, quand il y a trop de machos dans le public qui en profitent pour dire « pas d'égalité homme-femme, apporte-moi ceci ou cela », je me sens mal à l'aise.
Le Les festivités d'été de Shakespeare ont été créées sous l'impulsion du président Václav Havel au début des années 90. Depuis 1998, elles se tiennent régulièrement. Cette année, plus d'une trentaine de reprises ont déjà été jouées. L'équipe organisatrice a également introduit une nouveauté, la pièce tchécoslovaque « Les deux gentilshommes de Vérone ». On y retrouve Lukáš Vaculík et Zuzana Norisová comme personnages principaux, accompagnés par un groupe de musique en concert. Les spectateurs peuvent voir cette pièce uniquement lors de 3 représentations à Prague et c'est du 29 au 31 juillet. Les spectateurs peuvent également admirer toute une série d'adaptations, parmi lesquelles Richard III, Le songe d'une nuit d'été, Les joyeuses commères de Windsor ou Les peines d'amour perdues.
On retrouve maintenant, ou on passe plus précisément à la littérature, les vieilles usines et d'autres vestiges d'architecture industrielle sont un patrimoine menacé. Dans sa rubrique littéraire, Václav Richter vous parlera d'un livre qui raconte aux enfants, mais aussi aux adultes, la triste histoire d'un de ces monuments industriels désaffectés.
Rencontre littéraire. C'est une vieille usine textile qui est l'héroïne d'un livre sorti aux éditions Méander et destiné aux enfants et à leurs parents. L'usine a produit beaucoup de tissus, donné du travail à plusieurs générations d'ouvriers, mais le temps de sa prospérité est révolu et son propriétaire actuel envisage de la raser sans égard pour la beauté de son architecture, car l'usine est toujours belle, malgré la progression rapide de son délabrement. Elle reste un témoin muet de l'histoire de la région, un élément précieux de la mémoire collective, mais cela ne suffit pas pour la protéger de la furie des démolisseurs. Ses auteurs espèrent que le livre attirera l'attention des petits lecteurs et de leurs parents sur le triste sort de tous ces édifices industriels en République tchèque que leurs propriétaires laissent tomber en ruine malgré leur valeur esthétique et historique. O smutné továrně, la triste histoire d'une usine, est une œuvre collective, fruit du travail en commun de 4 auteurs. Accompagné de nombreuses illustrations, le texte a été écrit par le metteur en scène, scénariste et réalisateur de télévision, Radovan Lipus. Interrogé à propos du livre, il n'a pas oublié d'évoquer le travail de ses 3 collaborateurs.
Ty ilustrace jsou vlastně trojvrstvé, protože na začátku byly...
Les illustrations sont le résultat d'un processus à 3 niveaux. Au début, il y avait de belles photos d'architecture industrielle de Pavel Fritsch que David Vavra a disséquées sans merci pour les compléter de morceaux d'étoffe d'un carnet d'échantillons textiles retrouvés. C'était donc le deuxième niveau. Et le troisième niveau du processus de gestation des illustrations du livre, ce sont toutes ces figurines, toutes ces petites têtes et visages créés par Veronika Podzimková qui a animé les coupures des tissus et les images de fragments d'architecture industrielle en leur insufflant une histoire et une dimension humaine.
C'est un livre pas très épais qui n'échappe pas à l'attention des lecteurs grâce à son originalité. C'est aussi un livre militant et ses auteurs ne cachent pas leur intention de contribuer à sauver les vestiges d'architecture industrielle qui disparaissent rapidement du paysage tchèque. Radovan Lipus s'intéresse au patrimoine industriel depuis longtemps.
Mon intérêt pour ce genre d'architecture se manifeste de diverses manières, non seulement par une série de films documentaires pour la télévision, mais aussi par des calendriers que j'ai créés et des textes que j'ai écrits dans diverses revues. Cette fois, je m'adresse plus aux petits lecteurs, mais je me rends compte que c'est plutôt un livre idéal pour la lecture commune des parents et des enfants, ou des grands-parents et des enfants. Je crois que les enfants poseront de nombreuses questions pendant la lecture. Ils demanderont sans doute qui était tel et tel monsieur et que signifie tel ou tel épisode. Je pense que l'idéal serait que le livre soit lu par les parents à leurs enfants.
L'histoire de l'usine commence au XIXe siècle. Un tisserand du massif des Iselske Hori en Bohême du Nord, Jakub Steiner, rêve d'avoir son propre atelier de tissage. Il vend sa maison, obtient un crédit et bâtit une petite entreprise familiale. Il va même encore plus loin. Son atelier devient bientôt une petite usine qui continue de s'agrandir. Lorsque Jakub lègue l'entreprise familiale à ses fils, Eliash et Hugo, c'est déjà une importante usine textile dont les produits sont renommés dans l'ensemble des pays de l'Autriche-Hongrie. La prospérité de l'usine se vérifie également dans l'entre-deux-guerres, sous la Première République tchécoslovaque. Elle survit à la grande crise des années 1930, mais la situation de ses propriétaires change brutalement avec l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne nazie. L'usine est confisquée par les autorités allemandes pour la fabrication de tissus militaires. L'origine juive de la famille Steiner devient un crime. Un des propriétaires de l'usine, Eliash Steiner, est déporté dans un camp de concentration, tandis que son frère Hugo réussit à échapper au bourreau nazi en se réfugiant avec sa famille en Grande-Bretagne. C'est à lui que l'entreprise a restitué après la guerre pour une courte période jusqu'à la prise du pouvoir par les communistes. Après le coup de Prague en 1948, l'entreprise est confisquée une deuxième fois. Hugo Steiner est alors emprisonné et meurt dans un camp de travaux forcés. L'usine poursuit son activité, mais elle est mal entretenue, pas modernisée, et son état se détériore rapidement. Après la chute du régime communiste en 1989, il ne reste aucun membre de la famille Steiner auquel elle pourrait être restituée. La concurrence chinoise lui fait perdre progressivement la majorité de ses clients, elle devient déficitaire, et ses nouveaux propriétaires désirent s'en débarrasser. Pour Roman Lipus et ses collaborateurs, elle est un cas exemplaire.
Dans sa première version, quand ce projet nous a été présenté par la maison d'édition Meander, nous avions à l'esprit une usine concrète, celle d'Andjalska Hora, en Bohême du Nord. Mais il y a une grande quantité d'usines textiles de ce genre qui sont éparpillées un peu partout dans la région des Sudètes. Et leur sort est souvent aussi triste que celui de l'usine dont nous parlons dans notre livre. Seules quelques-unes ont survécu et vivotent encore. Et pourtant, la production textile était une branche vigoureuse de l'industrie tchécoslovaque, un article que nous exportions, une vitrine de notre savoir-faire qui existait pendant des siècles et qui faisait notre fierté comme les industries de verre, de porcelaine ou des constructions mécaniques. Je ne sais pas si c'est précisément l'industrie textile qui a subi le plus mauvais sort, mais aujourd'hui, il n'en reste pratiquement plus rien. Je dirais donc que notre livre est plutôt une synthèse de plusieurs histoires qui créent une espèce de destin universel.
Depuis la chute du régime communiste en 1989, plusieurs centaines d'édifices industriels, dont des dizaines de monuments incontestables de l'architecture industrielle, ont été rasés. Ce n'est que depuis une dizaine d'années que l'attitude de la société tchèque vis-à-vis du patrimoine industriel commence à changer. Roman Lipus se plaint de la lenteur de ce processus.
La perception de l'architecture industrielle chez nous est en perpétuelle évolution. Il y a quelques années encore, presque personne, à l'exception de quelques spécialistes, ne considérait ces édifices comme quelque chose pouvant avoir de la valeur, comme une architecture avec laquelle on pourrait compter, même après la fin de la production industrielle, pour la transformer avec succès. Pourtant, ailleurs dans le monde, ces exemples existent et c'est une façon tout à fait courante de traiter les vieilles usines, les vieux ateliers, les vieux halls de production. Malheureusement, nous ne faisons toujours qu'apprendre à le faire. Nous l'apprenons en titubant et les résultats que nous obtenons ne sont pas concluants. Les projets de revitalisation d'espaces industriels sont très rares, et ceux qui sont réussis sont tout à fait exceptionnels. Cela arrive encore de temps en temps dans de grandes villes comme Prague, Brno et Ostrava. Mais dans les régions frontalières, dans les petites villes où il y avait partout des usines et des petites fabriques, les décisions sur le sort de ces édifices tombent rapidement et les vieilles usines doivent céder la place à des parkings et des supermarchés. Les monuments industriels défunts sont toujours beaucoup plus nombreux que ceux qu'on réussit à sauver. Malheureusement.
Si myslím, že těch ztrát a těch padlých a těch neboštíků industriálních je víc než těch zachráněných. Bohužel.
Voilà, c'est sur cette note qui n'est ni malheureusement des plus optimistes ni des plus joyeuses que s'achève pour aujourd'hui le programme en langue française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et merci d'être bientôt de nouveau à l'écoute de nos programmes. Ahoy.